Au micro, Idrissa Soudia, bonjour. Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique. Un diplomate mauritanien, El Gassim Wan, a été nommé lundi par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nouvel émissaire de l'ONU pour le Mali, où il dirigera l'une des plus importantes opérations de la paix de l'organisation, ont annoncé les Nations Unies. Il succède à l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, Mohamed Saleh Anadif. Au cours de sa carrière, El Gassim Wan a déjà occupé des postes au sein d'organisations internationales, notamment à l'Union africaine de 2009 à 2015, puis de 2017 à 2019 et au département des opérations de la paix de l'ONU de 2016 à 2017. Au Mali même, un tribunal a mis fin sans verdict lundi au procès pour assassinat d'Amadou Sanogo, meneur d'un putsch en 2012, et d'une quinzaine de co-accusés après des années d'atermoiement. Lamissa Sangaré et Bagassi Koura y reviendront plus en détail en seconde partie de cette édition. Plus de 180 000 volailles ont été détruites au Niger, où des cas de grippe aviaire ont été déclarés depuis février dans 4 foyers à Niamey. Les autorités soupçonnent une contagion venue du Nigeria voisin. Selon le docteur Halima Adamu Haruna, directrice régionale de l'élevage de Niamey, les autorités, pour éviter une propagation à grande échelle, envisagent d'interdire l'importation et l'exportation des produits aviaires du Nigeria. Le chef du gouvernement de transition en Libye, Abdelhamid Dbeiba, a prêté serment lundi, plus d'un mois après sa désignation au terme d'un processus politique parrainé par l'ONU pour sortir le pays d'une décennie de chaos, en le menant jusqu'aux élections du 24 décembre prochain. C'est une percée politique sans précédent depuis 2014. Le premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a demandé officiellement lundi à l'ONU et aux États-Unis de jouer les médiateurs dans les négociations que mènent Khartoum et le Caire avec l'Éthiopie concernant la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. De son côté, le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que M. Hamdok avait écrit à l'ONU, aux États-Unis, à l'Union européenne et à l'Union africaine. Les forces spéciales américaines formeront pendant 2 mois des membres des forces spéciales de la marine du Mozambique pour aider le pays à lutter contre l'insurrection islamique Al-Shabaab qui sème la terreur depuis plus de 3 ans dans la province stratégique du Cabo Delgado, a annoncé lundi l'ambassade des États-Unis à Maputo. 7 États européens ont suspendu lundi la vaccination avec AstraZeneca, allongeant la liste des pays ayant pris cette mesure par crainte d'effets secondaires, ce qui porte un coup à la campagne mondiale d'immunisation, malgré les assurances de l'OMS quant à la sûreté de ce vaccin. Nous y reviendrons avec Mohamed Houmfa. En revanche, la Sierra Leone a lancé lundi sa campagne de vaccination qui utilisera les vaccins de la société chinoise Sinopharm et ceux du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, tous deux sûrs et efficaces selon le ministre de la Santé. L'arrivée d'une 3e vague de COVID-19 a contraint l'Italie à se reconfiner lundi et suscite des inquiétudes en Allemagne et en France, laissant planer le spectre de nouvelles restrictions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi à combattre les violences faites aux femmes à l'ouverture de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, qui doit adopter une déclaration réclamant de lutter davantage contre le harcèlement sexuel. La pandémie de COVID-19 expose davantage les femmes que les hommes à des conséquences néfastes, a précisé Antonio Guterres, en évoquant la perte de travail, les abus sexuels ou le mariage des enfants. Il a aussi réclamé l'égalité des sexes et la parité dans les responsabilités. la suite de nos informations. Le Tchad renforce les moyens des forces de sécurité à l'approche des élections du 11 avril. La police a reçu lundi 120 véhicules neufs pour restaurer l'autorité de l'État, selon des responsables gouvernementaux. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le ministre de la Sécurité publique, Souleyman Abakar Adoum, a indiqué que le souci majeur du gouvernement est d'assurer la paix et la sécurité. C'était lors de la cérémonie de remise de ces véhicules aux membres du groupement mobile d'intervention de la police. Les autorités n'ont pas précisé le montant débloqué pour l'acquisition de ces véhicules. Samedi, lors de son premier grand meeting de campagne pour la présidentielle, Idriss Déby, au pouvoir depuis décembre 1990, a martelé que la démocratie n'est pas le synonyme du désordre. Son pouvoir est accusé, en particulier ces derniers mois, de réprimer toute opposition en interdisant les rassemblements de partis ou de mouvements de la société civile qui réclament une alternance au pouvoir. La Cour suprême a invalidé les candidatures de plusieurs opposants, tandis que d'autres se sont retirés du scrutin en accusant Idriss Déby d'user de la force pour museler l'opposition et de militariser la campagne électorale. Le 28 février, une tentative d'arrestation de l'opposant et candidat Yahya Dilo Djerou s'est soldée par la mort de 3 personnes, la mère de celui-ci et 2 soldats selon un bilan officiel. M. Djerou a pris la fuite et la Cour suprême a invalidé sa candidature quelques jours après.
Alors qu'une dizaine de pays ont suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, l'OMS tente de rassurer. La chef scientifique de l'organisation a indiqué que les pays devraient continuer à utiliser ce vaccin. Un groupe d'experts de l'organisation se réunit ce mardi sur la question. Mohamed Houmfa fait le point.
Les pays devraient continuer à vacciner avec le sérum anti-Covid-19 d'AstraZeneca, a affirmé lundi Soumya Swaminathan, la chef scientifique de l'OMS. Nous ne voulons pas que les gens paniquent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'association entre les problèmes sanguins et le vaccin, a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse à Genève, ajoutant qu'à ce stade, le bénéfice de la vaccination l'emporte sur les risques liés au Covid-19. En première ligne, dans la lutte internationale contre la pandémie, l'OMS a toutefois annoncé qu'elle allait réunir mardi son groupe d'experts sur la vaccination afin d'étudier la sécurité de ce vaccin. L'Agence européenne du médicament doit donner son avis sur la question d'ici jeudi. Depuis quelques jours, une dizaine de pays ont suspendu l'utilisation de ce vaccin après des rapports de cas graves de formation de cailloux sanguins chez des personnes vaccinées. Une femme est décédée en Bulgarie après avoir reçu des injections de ce vaccin. Mais aucune preuve n'a été apportée jusqu'à présent sur un lien entre le vaccin d'AstraZeneca et les cas graves cités. Pour sa part, le groupe pharmaceutique anglo-suédois affirme qu'il n'y a aucune preuve de risque aggravé de cailloux sanguins qu'entraînerait l'utilisation de son vaccin.
Ici aux États-Unis, les républicains accusent le président Joe Biden d'aggraver la crise migratoire. Ici aux États-Unis, les républicains accusent le président Joe Biden d'aggraver la crise migratoire en provoquant un appel d'air à la frontière américano-mexicaine où affluent des milliers de migrants, dont de nombreux mineurs non accompagnés. Nathalie Barge.
Quelques 200 migrants sans papiers sont passés par la gare routière de Brownsville au Texas samedi. Tout au long de la frontière, l'arrivée massive de mineurs a débordé les structures au point que l'administration Biden a ordonné à l'agence de gestion des situations d'urgence de l'agence FEMA d'intervenir. Le ministère de la Santé s'occupe de 8800 jeunes migrants et les arrivées quotidiennes se poursuivent. En février, la police aux frontières a intercepté quelques 100 000 clandestins à la frontière sud des États-Unis, dont 9 457 mineurs non accompagnés. La crise à la frontière devient incontrôlable, a dénoncé le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui accuse Joe Biden d'avoir provoqué cet afflux de migrants avec ses réformes migratoires. La Chambre vote cette semaine sur un projet de loi qui permettrait aux personnes arrivées mineures sur le territoire, les Dreamers, de devenir américains, ainsi qu'un texte visant à faciliter le séjour des employés agricoles immigrés.
Minute Écho, John Linden.
Le Burkina Faso va se doter d'une nouvelle centrale d'énergie renouvelable à grande échelle de 30 MW près de la ville de Pas, à 250 km au sud de Ouagadougou. Toute la production de la centrale sera cédée à la SONABEL, la Société nationale d'électricité du Burkina Faso. L'objectif du gouvernement est d'atteindre 200 MW de capacité solaire cette année. Le financement du projet est estimé à environ 42 millions de dollars. L'Agence française de développement va consacrer près de 7 millions de dollars au financement de l'inclusion financière numérique en Afrique. À en croire le site Financial Afrique, ce financement devrait permettre de promouvoir l'égalité des sexes dans les services financiers numériques. Le financement ciblera, entre autres bénéficiaires, 20 à 25 millions de femmes sur 5 ans. Pékin a demandé au géant chinois du commerce en ligne Alibaba de céder des actifs dans le secteur des médias inquiets de l'influence du groupe fondé par Jack Ma. Selon le Wall Street Journal, le milliardaire qui a officiellement pris sa retraite d'Alibaba en 2019 mais reste un gros actionnaire est depuis quelques mois dans le collimateur des autorités de son pays. Alibaba est notamment le propriétaire du South China Morning Post à Hong Kong, Weibo, équivalent de Twitter, ou encore la plateforme de vidéos en ligne Bilibili.
Les sports à présent avec Nani Talani.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Les 48 rencontres de qualification à la CAN 2022 prévues du 22 au 30 mars vont se jouer à huis clos. Ainsi, on a décidé la Confédération africaine de football. L'instance panafricaine autorise chaque pays, s'il le souhaite, à demander une dérogation pour bénéficier de l'appui du public et la CAF tranchera pour chaque dossier. Les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2022 sont prévues du 22 au 30 mars. Elles marqueront la fin des qualifications africaines et définiront l'identité des 24 nations qui prendront part à la grande messe. En Guinée, le milieu de terrain de Liverpool, Naby Keïta, va probablement rater un des deux matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021 avec le Sili National. Alors que l'entraîneur de Liverpool indiquait récemment qu'il ne comptait pas libérer ses internationaux parce que ces derniers risquaient d'observer une période d'isolement de 7 jours à leur retour, le club a mis sa menace à exécution en envoyant un courrier à la Fédération guinéenne de football concernant Keïta. Les Reds ont fait comprendre à la Fedifoot qu'ils ne comptent pas laisser leurs joueurs se rendre en Namibie avec le Sili National le 28 mars en raison du taux élevé des personnes infectées que compte ce pays. Par contre, Liverpool accepte de laisser Naby Keïta jouer contre le Mali pour la 5e journée des éliminatoires, 4 jours avant celle de la Namibie. Pour terminer, Michel Platini encore devant la justice. Le Français s'explique depuis hier auprès de la justice suisse dans l'affaire qui a brisé son rêve de prendre la tête de la FIFA. Le triple ballon d'or devra répondre au procureur Thomas Hildebrand qui le poursuit pour un paiement suspect d'1,8 million d'euros aux côtés de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter. C'est l'ultime audition du Français avant la clôture de l'instruction. Ensuite, il sera soit mis hors de cause, soit renvoyé devant un tribunal pour y être jugé. Le numéro 10 légendaire des Bleus est soupçonné d'escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Des charges élargies en novembre et passibles de 5 ans de prison. Anciens alliés devenus rivaux, Blatter et Platini ont toujours affirmé que les fonds mis en cause représentent le reliquat d'un paiement pour un travail de conseiller effectué par le Français entre 1999 et 2002. Mais la FIFA déplore l'absence de contrat écrit mentionnant à l'époque une telle rémunération et en réclame à Michel Platini le remboursement.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La cour d'assises de Bamako a ordonné lundi la fin sans verdict du procès pour assassinat contre le général Amadou Sanogo, meneur d'un putsch en 2012 et brièvement chef de l'État et une quinzaine de co-accusés. La cour a invoqué une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation nationale ainsi qu'un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles. Le général Sanogo et ses co-accusés étaient jugés pour l'enlèvement et l'assassinat de 21 membres des Bérets Rouges, une unité d'élite. Leurs avocats ont salué la décision de la cour d'assises. Ceux de la partie civile ont boycotté l'audience. De Bamako, avec le concours de Lamissa Sangaré, Bagassi Koura.
Un mois après le coup d'État de 2012 mené par le général Sanogo, les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-putsch brutalement réprimé par les nouveaux maîtres de Bamako et par les Bérets Verts qui leur étaient acquis. Les corps de 21 d'entre eux avaient été retrouvés dans un charnier en décembre 2013. Amadou Sanogo a été rapidement contraint de céder le pouvoir à des autorités civiles. Il avait été ensuite élevé au rang de général 4 étoiles, promotion considérée comme politique. Mais fin 2013, il avait été arrêté pour son implication présumée dans l'assassinat des Bérets Rouges. Et depuis, le procès a traîné. En janvier 2020, les mises en cause, y compris le général Sanogo, ont été relâchées après 6 années de détention. Ce matin, la libération immédiate de tous les inculpés a été prononcée.
J'ai cru et Dieu me m'a donné raison. Je lui dis encore une fois de plus merci.
Maître Tiesolo Konare est avocat de la défense.
Parce que le Mali n'a pas besoin d'un procès qui va aboutir à des assassinats, à des atrocités. Le pays a compris et le pays a pris une loi d'entente nationale qui vient d'être appliquée. Les lois sont faites pour être appliquées.
La Cour a invoqué notamment une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et offrant la possibilité de l'amnistie ou de la grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. La Cour a également invoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles.
C'est une jurisprudence, mais c'est une application de la loi, vraiment.
Maître Alassane Sangaré est avocat de la défense.
C'est une application de la loi. C'est pour la première fois quand même que cette loi est évoquée devant une cour d'assises. Et lorsque la cour d'assises rend un arrêt, on peut dire que cet arrêt peut avoir valeur de jurisprudence. Et c'est un grand pas. C'est un grand pas. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, malgré tout ce qu'on reproche à notre justice, hein, moi, je crois à la justice.
En entendant que les accusés ne seraient pas punis, Amina Soumaré n'a pu se retenir, elle qui dit avoir été enlevée et violée par les accusés.
C'est la justice malienne et la honte pour les gens qui ont massacré les gens, qui ont enlevé les femmes, qui les ont violées, qui les a violées. Et c'est la honte aujourd'hui. Cette date doit être inscrite dans l'histoire du Mali. On ne peut pas faire la réconciliation sur la base des mensonges.
La Cour a décidé de mettre un terme à un procès gênant pour les autorités actuelles du Mali qui craignent de possibles dissensions que ce procès pourrait susciter au sein de l'armée. Bagassi Koura, Lamissa Sangaré, Bamako pour VOA Africa.
Pierre Moragibour avec vous pour À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'application de la justice au sommet de l'État. Inculpé pour corruption et placé sous contrôle judiciaire, l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz doit se présenter 3 fois par semaine à la police et il ne peut quitter Nouakchott sans l'autorisation du juge dans l'attente de son procès. Alors que de nombreux chefs d'État ont bénéficié d'une immunité de facto, la justice semble s'être renforcée dans certains pays. Est-ce le cas chez vous? Venez en débattre avec nous ce soir en direct dans À votre avis. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique.
Reprise des activités dans les villes frontalières entre le Cameroun et le Nigeria. Ces villes qui, depuis 2015, ont été le théâtre d'attaques de Boko Haram. Lors d'une récente cérémonie de départ volontaire de réfugiés nigériens pour leur pays, les autorités camerounaises et nigérianes ont fait le constat de ce début de retour à la normale, marqué aussi par la relance des échanges commerciaux à certains postes frontaliers. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julta.
C'est à Amchidi, une ville frontalière avec le Nigeria, que le gouvernement camerounais a organisé la cérémonie de rapatriement de 400 réfugiés nigériens. Cette localité, à l'instar de Kolofata et Kodokol, dans la région de l'extrême nord, avait été dépeuplée à cause des attaques, enlèvements, pillages, vols et viols perpétrés par Boko Haram. Ces derniers mois, les activités reprennent vie ici.
Depuis la crise qui a profondément meurtri Amchidi et notre arrondissements, tout le département. Nous avons aujourd'hui la première visite d'un membre du gouvernement.
C'est Nouboukar Lamine, maire de Kolofata.
Avec le retour des réfugiés dans leur pays respectif et le retour des déplacés dans Amchide, tout ceci montre que la paix revient, malgré l'existence des attaques résiduelles qui sont toutes minimes et que nos forces sont capables de juguler totalement. Nous rêvons de l'autre combat qui est le combat du développement, avec la reprise normale des activités agricoles et pastorales, des activités commerciales, ainsi de suite. Il nous faut des routes et continuer à avoir la pression sécuritaire pour qu'on soit totalement débarrassé de ce mal.
Certains postes douaniers du département du Mayo-Sava, voisins au Nigeria, ont relancé leurs activités après des années de fermeture. La circulation des hommes et des marchandises sur le corridor Moura-Amchide en allant vers le Nigeria est désormais possible. Ibrahim et Mohamed sont deux ressortissants nigériens.
Nous
sommes ici depuis presque 8 ans déjà. Maintenant, nous rentrons directement chez nous. Donc nous disons merci à Dieu.
À présent, nous retournons chez nous dans la paix et avec la manière. Merci à tous les Camerounais.
Pour sa part, Babagana Zulu, gouverneur de l'état voisin du Borno, pense qu'il est temps de rouvrir les frontières du côté du Nigeria.
Nous allons ouvrir les frontières pour permettre aux activités économiques de reprendre effectivement entre les deux pays. Les frontières seront rouvertes et très bientôt pour que les activités reprennent immédiatement.
Les villes situées à la frontière Cameroun-Nigeria dans l'extrême nord ont payé le plus lourd tribut des attaques de Boko Haram. Mais l'État camerounais a entrepris la reconstruction des édifices détruits par la guerre et le renforcement de la sécurité dans la zone. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale.
Je veux remercier le général Bouba de la force multinationale mixte qui a pris toutes les dispositions sécuritaires pour accompagner ce voyage.
En 6 ans de conflit, le tissu commercial aux frontières du Cameroun avec le Nigeria a été affaibli et des milliers de commerçants ont pour la plupart pris la direction de N'Djamena au Tchad, Bertois au Douala au sud du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Zultap, VOA Afrique.
Selon une étude, les Togolais ne sont pas très portés sur les applications mobiles locales, car ces dernières ne répondent pas vraiment à leurs besoins. Dans le pays, certaines applications séduisent les utilisateurs, même si des déceptions sont parfois au rendez-vous. Les applications Made in Togo et leur perception par la population dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kylie Lawson.
L'utilisation des applications Made in Togo se limite à quelques domaines précis. Ce sont les résultats d'un sondage réalisé sur les applications mobiles et web développées et utilisées au Togo qui l'indiquent. Emefa Pegba, responsable de E-Technopole qui a participé à cette étude, revient sur les résultats obtenus.
Les Togolais utilisent certaines applications togolaises, des applications qu'ils jugent utiles aux besoins. Ils téléchargent, ils l'utilisent et après, ils peuvent encore désinstaller. Donc en gros, il y a des applications dans les domaines des transports, des logistiques, les banques et finances, assurances, santé aussi, qui sont utilisées.
Dans le domaine de la santé, cette jeune mère de 2 enfants a eu un coup de cœur pour une application.
J'utilise surtout et surtout l'application Santé Plus, parce que chaque fois il fallait aller sur internet, taper quelles sont les pharmacies de garde, quels sont les hôpitaux qu'on a un peu dans les environs, et surtout vu que j'ai une assurance santé, quel hôpital, quelle pharmacie était conventionnée ou non. En tout cas, Santé Plus, ça a été une découverte pour moi et je ne m'en passe plus.
Le top des applications utilisées au Togo est dans le transport et la logistique.
L'application Gozem m'aide beaucoup dans mes courses. C'est une application qui permet à ce que votre chauffeur vienne directement chez vous, vous chercher pour vous déposer à un point donné. Ça vous évite d'aller rester au bord de la route.
J'ai installé Gozem il y a 1 an. Ma voiture était au garage et j'avais besoin de me déplacer. C'est comme ça que j'ai commencé à utiliser Gozem.
Je suis très habituée à l'application Gozem. C'est le Uber togolais en fait.
J'utilise plusieurs applications togolaises, notamment Gozem pour délivrer, pour manger de temps à autre. J'utilise également Kaba pour quelques petites livraisons rapides.
Seti Afanou, développeur d'applications, nous édifie sur quelques aspects qui concourent au succès d'une application sous nos cieux.
Ici en Afrique, je dirais le succès d'une application
réside en fait dans l'ergonomie de l'application, la valeur ajoutée et aussi la convivialité de l'application. Mais sans oublier aussi la manière dont l'application gère les ressources matérielles. Si l'application est très gourmande en termes de ressources internet, ça peut aussi bloquer tes utilisateurs à vraiment l'adopter.
Ces applications ne convainquent pas toujours.
Ce qui est un peu embêtant avec l'utilisation de l'application, c'est qu'une fois que vous avez lancé votre commande de taxi, le chauffeur vous appelle pour avoir des précisions quant à votre situation géographique, alors que normalement, avec la géolocalisation, cet appel ne devrait pas être.
J'ai 4-5 fois commandé un repas de restaurants différents. La commande est arrivée chaque fois en retard, très en retard. Du coup, le repas est froid, désagréable à manger.
J'ai déjà téléchargé plusieurs applications parce que parfois, juste que l'application vend ce qu'elle ne contient pas.
Sur les exigences des Togolais en termes d'application, nous retrouvons Emefa Pegba de E Technopole.
Les Togolais veulent bien utiliser des applications, mais des applications qui leur rendent service et qui leur facilitent la vie. Il faut vraiment que les innovateurs utilisent des technologies adaptées et moins gourmandes en data et en stockage.
Le constat relevé par ce sondage est qu'il n'y a pas assez d'applications Made in Togo qui répondent spécifiquement aux vrais besoins des Togolais. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Cette semaine, tournée du président Joe Biden ici aux États-Unis après la promulgation d'un plan de relance économique de 1900 milliards de dollars. Les Américains commencent à recevoir les chèques prévus dans ce plan. Pendant ce temps, à Washington, les élus débattent de la manière de gérer la vague de migrants arrivant à la frontière sud des États-Unis. Un reportage de Michel Quinn de la VOA, repris ici par Jacques Aristide.
Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris effectuent le voyage dans le cadre d'un périple baptisé Help is Here. Comprenez, l'aide est là. Objectif, promouvoir le plan de relance économique de 1900 milliards de dollars que le locataire de la Maison Blanche a promulgué la semaine dernière. Présenté comme l'une des mesures de lutte contre la pauvreté les plus importantes depuis des décennies, le plan comprend des chèques et virements de 1400 dollars pour de nombreux Américains, de même qu'un nouveau crédit d'impôt de 3600 dollars par enfant pour les parents. Aucun élu républicain n'a voté pour le plan, le jugeant gargantuesque et mal ciblé. Le sénateur John Barrasso est un républicain du Wyoming.
Les
républicains veulent s'assurer que les gens reçoivent le vaccin, que les enfants retournent à l'école, que les gens retournent au travail. Mais nous n'allons pas appuyer les démocrates alors qu'ils tentent d'exploiter une crise.
Les démocrates, eux, mettent en exergue de récents sondages qui montrent que la majorité des Américains soutient le plan. Une étude d'opinion réalisée par CNN, par exemple, a révélé que 61% des sondés soutiennent les mesures d'aide. Pour la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, élue démocrate de San Francisco, c'est uniquement à Washington que le soutien républicain fait défaut.
Vous pouvez être sûr que tous les États et communautés en bénéficieront et ils ne s'en plaindront pas chez eux.
Pendant ce temps, à Washington, les élus sont en désaccord sur la façon de gérer l'afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis. La situation a conduit des parlementaires à se pointer du doigt les uns les autres. Certains républicains affirment que c'est le démantèlement par le président Biden des mesures d'immigration mises en œuvre par son prédécesseur Donald Trump qui a entraîné la flambée. Mais les démocrates, pour leur part, affirment que ce sont au contraire les politiques de Trump qui ont abouti à la situation actuelle.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.